Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Plus fort que l'orage. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Franck et Odette mènent la belle vie. Il a loué un appartement rue Vendôme. Odette organise des bals. Les dîners sont somptueux. Aucun des deux ne songe à l'avenir. L'argent commence à manquer. Franck a fait quelques prêts. Odette s'est aperçue que l'argent manquait. Alors elle cherche à se caser ailleurs. Odieuse avec Franck en s'affichant ouvertement avec un invité.
Devinez, cela vous donne le vertige et cela fait battre votre cœur.
C'est vous, ma chère, qui faites battre mon cœur.
J'ai dit qu'il me fallait 5 lettres. Allons-y, venez, je vais vous montrer. Passez votre bras autour de ma taille.
Autour de votre taille?
Je ne suis pas en porcelaine. Comptez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tournez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça.
Une fois que les invités sont partis, il la retient au salon. Ils sont tous les deux debout l'un en face de l'autre, la pièce est en désordre. Il la regarde bien, droit dans les yeux, et la gifle. Tu peux t'apprendre à me traiter de cette façon.
Tu n'as pas le droit de me gifler de cette façon.
Dis donc, toi.
Si tu recommences à faire ce que tu as fait ce soir, je te mets à la porte.
Je ne vais pas attendre à ce que tu le fasses. Je pars tout de suite.
Oui, c'est ça. Va-t'en.
Pauvre con, va. Qu'est-ce que sans un sou? Qu'est-ce que tu crois? Hein?
Personne ne te prêtera quoi que ce soit. Si tu as été aidé jusqu'à présent, c'est grâce à mes relations.
Elle quitte la pièce en claquant la porte.
Te retrouve seul et s'assoit.
Bon débarras.
Cherche du travail. Malheureusement, il manque de spécialité, d'études et ne trouve rien.
Les mois passent. Il a quitté son appartement rue Vendôme et s'est retrouvé dans un hôtel rue Mercière. C'est le même hôtel minable qu'il avait logé au début de son arrivée. Sa chambre se trouve sous les toits. Un lit de fer, une table et une chaise. Pas de chauffage, c'est l'hiver maintenant.
Franck est allongé sur son lit, habillé d'un caleçon.
Habille une fille rousse, maquillée d'une façon vulgaire. Une fois qu'elle s'est habillée d'une robe rouge, elle lui dit
« Bon, eh bien j'y vais. »
« N'oublie pas de ramener une bière. »«
D'accord. »
Elle sort de la pièce.
C'est Julie, une petite pute qui s'est prise affection pour lui. Il se lève et s'habille.
Il neige, il ne sortira pas aujourd'hui. Et puis il ne se sent pas bien depuis quelques jours. Il a de la fièvre et une douleur à la poitrine. Son visage est pâle
et il se sent faible.
Deux jours plus tard, Franck a beaucoup de fièvre. Il est dans son lit et ne peut plus bouger. Il a demandé à Julie d'aller chercher le médecin.
Le médecin, qui est le médecin de famille de la famille de Franck, après l'avoir ausculté, dit à Julie
« Il a pris froid, les poumons sont atteints, il ne peut pas rester à Lyon. Je vais le faire retourner dans sa famille. Son père est absent pour le moment. Je vais écrire à son oncle pour qu'il le prenne. »
Le médecin écrit à l'oncle qui n'a pas osé refuser de reprendre son neveu. Devant les étrangers, ça aurait fait mauvais effet.
Franck est conduit vers la berline qui va le mener chez son oncle. Julie l'a bien mitouflé. La neige a fondu. Le ciel est gris, les rues sont boueuses. Il entre dans la berline. Julie lui met une couverture écossaise sur ses genoux. Il est pâle comme la mort. Elle l'embrasse sur les joues.
Ton sac de voyage, avec les bagages. Au revoir.
Elle descend et la berline part.
Eugénie est dans la chambre de son père qui est alité. Elle lui a apporté son petit déjeuner sur un plateau. Le vieil homme mange, elle reste debout à côté de lui.
Pourquoi le recevez-vous encore une fois ?
Je ne pouvais pas refuser. Le docteur Durand nous connaît tous et il est conseiller général. Ça aurait fait très mauvais effet.
Elle hausse les épaules. Que vais-je faire avec un malade de plus et qui plus est n'a pas d'argent ? Il est parti une première fois sans prévenir, comme un voleur. Et il a le culot de revenir.
Père a fini de manger, elle prend le plateau et sort. Eugénie, en début d'après-midi, prend la carriole pour aller chercher son cousin à Bourgoin. Le ciel est gris et humide. Durant ces mois, son corps s'est durci. Elle a mûri. Elle est devenue une femme. Pas du tout émue que son cousin revienne, mais elle est plutôt agacée. Lui l'attend à l'arrêt de poste avec son petit sac. Il est gêné et aurait aimé ne pas revenir, mais il était trop faible pour s'opposer à ce retour. Que va dire Julie ? Et l'oncle, ils vont peut-être me demander les bijoux ou l'argent. Lorsqu'il la voit arriver sur sa carriole, la trouve plus femme, plus séduisante et en même temps redoutable. Elle le trouve vieilli, maigri, insignifiant, laid. Elle arrête sa carriole en face de lui.
Bonjour cousin. Bonjour cousine. Vous pouvez monter seul ?
Oui. Il lui donne son sac qu'elle met sur le derrière de la carriole. Puis il monte. Ensuite elle fait partir la carriole. Elle se sent pas du tout intimidée par lui. Lui, oui. Il se sent faible et fragile devant cette jeune femme pleine de vie et d'une grande beauté.
Je tiens à vous dire que ce n'est pas moi qui ai voulu que vous reveniez, c'est père. Pour moi, vous êtes une charge supplémentaire. C'est moi qui m'occupe du Eumène. Père et mère sont malades. Il a des crises de rhumatisme et mère est toujours faible. Avec vous, cela va faire 3 personnes à s'occuper, en plus du domaine. Je voulais vous dire aussi que c'est que je ne veux plus entendre parler de ce qui s'est passé entre nous. Il n'y a que moi qui sais que les bijoux ne sont plus chez nous. Vous les avez vendus, n'est-ce pas ?
Oui, mais je vous les rembourserai.
Ne dites pas de bêtises. Vous n'avez pas d'argent et vous ne tenez pas debout. N'en parlons plus.
Eugénie est devenue froide. Voit les choses que d'un point de vue pratique.
Arrive devant la ferme, elle s'est arrêtée devant la grange.
Elle descend de carriole, lui aussi, puis elle prend le sac de voyage.
Je vous ai aménagé un coin dans la grange. Votre chambre est prise, une domestique y dort pour surveiller les malades pendant la nuit. Vous verrez, vous y serez très bien dans la grange.
Elle ouvre la porte de la grange.
Il la suit. À l'intérieur.
l'intérieur, il y fait sombre et c'est plein de foin et d'outils pour la terre. Au fond de la grange, elle ouvre une petite porte. Ils y rentrent.
Voici votre chambre. Les murs sont passés à la chaux. Le sol, c'est de la terre. Une petite fenêtre. Un lit en fer.
Une table.
Une chaise et des rayons fixés au mur. Sur la table se trouve un brou et un bougeoir en étain avec une bougie. Sur le lit, il y a une pile avec deux draps, une couverture et un oreiller.
Vous verrez, vous y serez très bien ici. Asseyez-vous, je vais faire votre lit.
Franck s'assoit et elle fait le lit.
Abasourdi, mais n'a pas assez de force pour réagir. Et puis quoi faire? C'est lui qui est l'ordibiteur. Après avoir fait le lit, elle le couche et le quitte.
Franck est tellement épuisé qu'il s'endort de suite.
Jenny se lève tous les jours à 5 heures. Elle fait sa toilette, s'habille, descend à la cuisine voir la cuisinière pour lui donner les menus des différents repas.
C'est elle qui a les clés du garde-manger et de la cave. Elle est devenue méticuleuse et regarde tout de très près.
Une fois qu'elle a donné les ordres à la cuisine, elle porte les petits déjeuners aux malades.
Puis elle déjeune elle-même.
Part en carriole chaque matin voir les métairies.
Tout contrôler et diriger. Elle n'a confiance en personne. Sa façon irrite les gens et ne l'aime pas.
Midi, elle rentre et sert les repas aux malades.
Puis, elle déjeune elle-même.
14h à 20h, elle est dans les terres.
Ensuite, le repas du soir aux malades.
N'oubliant pas de leur donner leurs médicaments.
Puis, elle mange.
Soirée, elle fait la lecture à sa mère ou joue du piano.
Et à 23h, elle se couche.
Elle accepte cette vie parce que ça ne lui donne pas le temps de penser à elle. Elle veut s'oublier. Mais quelquefois dans son lit, avant de s'endormir, une angoisse la prend à la gorge. Et là, une voix lui dit qu'elle gâche les plus belles années de sa vie. Mais elle ne veut pas entendre cette voix. Elle lutte pour ne pas l'entendre.
Il ne faut pas que je sois faible, que je me laisse aller. J'ai déjà fait une erreur, j'en ne ferai pas une deuxième. Les jeunes ne pensent qu'à eux. Ils nous séduisent, c'est pour pouvoir nous dépouiller. Je ne ferai jamais confiance à un homme.
s'enfermer jour et nuit dans la grange. On lui a mis un petit chauffage au bois. Il n'a pas froid, mais les journées sont longues. Eugénie, lorsqu'elle vient le voir pour lui apporter le repas ou lui donner les soins, ne fait pas attention à lui. Elle ne le regarde pas, ne lui parle pas, sauf pour lui donner un ordre. Ses gestes pour le laver, le changer, le border, le soigner sont précis mais sans affection. Trouve Franck dans un état guère satisfaisant. Il a dû à Eugénie au salon.
Il n'est pas bien du tout. Il dépérit. Il faudrait sortir de cet endroit. Ce n'est pas bien pour son moral.
Où voulez-vous que je le mette, docteur? J'ai pas de place ici. Et puis la contagion.
Le père d'Eugénie ne va pas lui non plus. Il a pris un rhumatisme au corps.
Le printemps est de retour. Un matin, Eugénie va voir son père. Elle le trouve mort dans son lit. Malgré elle, elle a une sensation de soulagement. Un malade de moins soigné. Elle n'a jamais aimé son père. Elle prévient le curé. Sa mère lui dit
« Non, c'est à toi de prendre la succession. Moi, je suis malade. Il faudra aussi te marier.
Je ne marierai jamais. »
Franck, son esprit va à la dérive. Seul, toujours seul. Et Eugénie qui le soigne sans dire un mot. Un jour, il lui dit «
Pourquoi ne me parlez-vous pas? Je n'ai rien à vous dire. Vous me détestez? Non, je suis indifférente à tout ce qui vous touche. Alors pourquoi me gardez-vous chez vous? Moi je ne voulais pas, mais c'est père qui l'a voulu. Alors j'obéis.
Franck a une forte fièvre. Elle a appelé le médecin. Le médecin lui dit
« Je crains que ce soit la fin. »
Il meurt dans la journée. Elle n'en éprouve aucune peine. Peut-être même le contraire.
Eugénie vit seule avec sa mère.
Une nuit d'orage, une de ses vaches va mettre bas. Elle va chercher le vétérinaire à Bourgoin en carriole.
Devant la maison du vétérinaire, elle est trempée. Elle frappe à la porte. Il
Il est 23h. Une fenêtre à l'étage s'ouvre et apparaît une vieille femme.
Que c'est ?
Je viens voir le vétérinaire. Une de mes vaches va faire un petit.
Bien, je vais le réveiller.
Le génie est sous l'orage et la porte s'ouvre. Un jeune homme d'une trentaine d'années.
Vous désirez, mademoiselle? J'aimerais voir le vétérinaire.
Laissez-moi, j'ai pris la suggestion de mon père.
Une de mes vaches m'ébat.
Bien, je prends ma mallette et nous y allons. Attacher son cheval à la carriole pour le retour. Ils sont sur la route. L'orage est toujours aussi fort. Le vétérinaire est surpris.
Comment se fait-il que ce soit vous qui veniez me chercher?
Je suis seul à la ferme avec ma mère.
Vous êtes
la fille Ladry. Le vétérinaire a entendu parler de cette famille. Arrivés à la ferme, ils vont tout de suite à l'étable et le vétérinaire, aidé d'Eugénie, aide la vache à mettre bas.
Bien, bien la queue. Ouais. Ah, bouge pas en tout cas.
C'est long et pénible car le petit se présente mal. Le vétérinaire et Eugénie sont en sueur.
Il est à l'envers. Bien la queue.
Enfin, 5h du matin, c'est fini. Pendant que le vétérinaire se nettoie la fontaine, elle est allée préparer du café. Elle la lui apporte. L'homme est émerveillé par cette jeune femme. Il a pris la tasse de café et va s'asseoir près du feu qu'ils ont fait à l'étable dans un brasier. Elle l'a suivi. Elle a une tasse, elle aussi. Lui est assis à terre. Elle, elle est debout. Les flammes éclairent son visage et fait briller ses yeux. Le jour commence à paraître.
Vous vivez seul, pas de fiancée?
Elle fait le nom de la tête.
Vous sortez? Allez au bal, concert? Je n'ai pas le temps. En plus de la ferme, j'avais 3 malades à m'occuper. Maintenant, il ne m'en reste plus qu'un.
La vétérinaire se lève, lui donne la tasse.
je dois partir. » Il prend sa mallette, elle dépose la tasse près du brasier. Il se dirige dans la cour pour prendre son cheval. Elle le suit. Il monte à cheval, il la regarde bien. Elle est belle avec ses cheveux défaits, son air autoritaire. « Au revoir, docteur !» Tout à coup, il se penche vers elle, la prend à la taille, la soulève et l'embrasse sur les lèvres. Elle le gifle, il la dépose à terre et fait partir son cheval. Il se retourne. « Je m'appelle Hector !» Reçoit une invitation de la mère du vétérinaire pour prendre le thé. De fureur, il déchire la lettre. Pour qui me prend-il ce goujat ? J'arrangeais du foin avec une faux. Elle entend du bruit, un bruit de cheval dans la cour. Où êtes-vous, mademoiselle Eugénie ? C'est le vétérinaire. Elle continue à faire son travail. Il descend de cheval. Il entend du bruit dans la grange. Il entre et voit Eugénie. Elle se retourne furieuse. « N'approchez pas, » dit-elle, en le menaçant de sa faux. Il s'avance. « Ne vous touchez pas. » Il avance toujours. « Je viens simplement vous voir un ami. » Il s'avance. Dans la main, elle lève la faux. En la levant, elle le blesse à la cuisse. « Aïe ! Mais vous êtes complètement folle !» Elle lâche la faux. « Excusez-moi, mais c'est de votre faute !» Je faisais rien de mal. Allongez-vous dans la paille, je vais vous soigner. Il s'allonge et elle va lui chercher des bandages et de l'alcool. Lorsqu'elle revient, il a remonté son pantalon jusqu'au mollet. Il y a un peu de sang, mais la plaie n'est pas profonde. Elle se penche et le soigne. Vous recevez toujours les gens de cette façon ? C'est de votre faute aussi. Je vous avais dit de ne pas approcher. Vous aviez peur de quoi ? Que je vous embrasse comme ça ? Et de tout son poids, il se penche vers elle. Elle ne peut que s'allonger et il l'embrasse. Le baiser a été long et doux. Elle ne s'est pas débattue. Depuis que je vous ai vu, je ne pense à vous sans arrêt, Eugénie. Je vous aide belle. Il se soulève un peu. Elle le gifle. Ou alors, je ne veux pas que l'on m'embrasse. Votre pansement est fait. Vous pouvez partir. J'étais venu vous demander si vous acceptiez de venir avec moi au bal de la préfecture du Rhône qui a lieu dans un mois. Elle le regarde avec mépris. Non. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous me reprochez ? Elle se lève, range sa robe. Vous êtes tous les mêmes, vous les hommes. Elle sort de la grange. Puis remonte son pantalon, se lève, se dépoussière et sort. Jours plus tard, il a plu durant deux jours et les chemins sont boueux. Eugénie, avec sa carriole, va chercher le médecin pour sa mère qui n'est pas bien. Elle s'est embouée en pleine campagne. Elle a beau essayer de tirer le cheval, pousser la charrette, rien n'y fait. Pleine de boue, en sueur, elle s'est assise sur le marche-pied de la carriole. Elle soupire. Si dans cinq minutes,
personne ne passe pour m'aider, je partirai à pied chercher de l'aide.
Elle voit enfin arriver de loin un homme sur un cheval. Mais lorsqu'il s'approche d'elle, elle voit que c'est le vétérinaire. S'approchant d'elle, il voit qu'elle est embouée. «
Vous avez besoin d'aide ?» Elle hausse les épaules. « Alors que faites-vous ici ?»«
Ce qui me plaît. » »«
Vous êtes embouée, vous n'y arriverez jamais toute seule. »
De colère, elle se met devant le cheval et le force à avancer. Mais rien n'y fait.
Tellement fort qu'elle tombe dans la boue.
Ça le fait rire. Elle crie de rage. Et puis sa mère qui est malade. Tout ce temps qu'elle perd à cause de cet imbécile. Il descend de cheval, se penche pour la relever. Une fois debout, elle le gifle.
La gifle et la secoue.
Méritoriez que je vous laisse ainsi.
Elle le regarde avec dédain. Il l'embrasse. Elle se défend. Et ils tombent tous deux dans la boue.
Après avoir roulé ensemble, il se relève plein de boue. Sans rien dire, il va à l'arrière de la carriole, soulève les roues en disant « Hue au cheval !» La carriole est dégagée.
Elle monte sur la carriole, lui sur son cheval. Ils avancent côte à côte tous les deux.
Vous allez où ?
À Bourgoin, chercher le médecin, ma mère est malade.
Je vous accompagne.
Elle se met à le regarder. Surprise, elle le voit plein de boue, le visage tout noir. Elle éclate de rire, lui aussi.
Laisse devant la maison du médecin.
« Dans 15 jours, je viendrai vous chercher pour le bal de la préfecture. »
Elle ne dit rien. Surprise, elle le regarde partir.
Sont troublés par la sensation que lui ont produit le baiser d'Hector.
C'est une femme malgré tout, elle ne peut faire taire entièrement ses sens.
Le lendemain, en entrant dans la pharmacie du bourg, elle entend deux vieilles commères parler. Elles ne l'ont pas vu entrer. L'une d'elles dit
« Il paraît que le vétérinaire de Bourgoin veut inviter au bal de la préfecture Eugénie Ladry. C'est la bonne de la mère qui me l'a dit. »
C'est sûrement faux. Inviter n'importe qui à la préfecture.
Plus tard, Hector va à la ferme chercher Eugénie. Il est 18h, il frappe à la porte.
La porte s'ouvre. C'est Eugénie en magnifique robe du soir blanche qu'elle s'est fait faire en vitesse par sa couturière.
Il est ébloui et surpris. Mazette, que vous êtes belle. Je savais bien que vous viendrez avec moi.
Elle hausse les épaules.
Je n'y vais que pour le bal, c'est tout.
Encore fâché ?
Elle hausse les épaules et dit
bon, allô.
Partons.
Hey,
calmement. Il ne se parle pas, mais il la regarde et la trouve délicieuse. Avant d'entrer à la préfecture, il lui donne un bouquet de lys blanche et ils entrent.
Bonsoir.
Surprise par toutes ces lumières, cette musique, ce monde, il se donne le bras. Arrivé dans la salle de bal, Hector est assailli par une foule de jeunes filles. Eugénie est surprise et vexée. Elles le veulent toutes pour danser. Il se laisse faire, heureux. Elle le laisse au milieu de toutes ses pimbèches et va s'asseoir dans un coin tranquille, triste et dépité.
Salut, Tancred.
Salut, François Paul. Bonsoir.
Durant une bonne partie de la soirée, elle le voit valser. Elle soupire de jalousie. À côté d'elle.
Il est magnifique, Hector. Oui, oui, il est très beau.
Qui danse bien. Qui aura la chance de la voir. L'autre aux ses épaules. C'est tellement pas la petite paysanne avec qui il est venu. Où est-elle, celle-là? Il a vite oublié. Jenny furieuse se lève. Une coupe de champagne sur une table et revient vers les deux filles.
Colonel, je suis très honoré de vous recevoir.
Vide le verre sur les filles. Puis se retourne et va vers Hector qui parle à une fille. Et derrière lui, lui tape l'épaule avec son éventail. Il se retourne. Vous ne m'avez pas fait danser, mon cher. Pardonnez-moi. Et il l'emmène valser. Elle lui dit « Est-il vrai que vous allez vous marier avec une de ces pimbèches? Je serai obligée si vous me refusez. Qui vous dit que je vous refuserai? Croyez que vous aimiez trop votre indépendance et que vous refuseriez de vous faire embrasser. » Il la serre contre lui. Elle le gifle. Il s'arrête de danser. « Vous ne marierez jamais avec une femme qui me gifle. » Et il se sauve. Regarde autour d'elle, confuse, et voit les deux chiffis. Elle court derrière Hector, le rattrape, le dépasse et lui donne un baiser sur la joue. Comme cela, vous êtes satisfait? Non. Il la prend par la main et la mène dans un coin du salon. La prend dans ses bras et l'embrasse. Là, je suis satisfait. Puis, il la ramène danser.
Thank you.
tête sur son épaule. Arrivé à la ferme, avant de descendre, il l'embrasse une dernière fois. Elle lui dit « Ça a été merveilleux. » Et elle entre chez elle. Deux semaines plus tard, il fait sa demande à la mère. Il est accepté, Eugénie est heureuse. C'est à son tour à être présentée à la mère d'Hector. Son père est mort. Elle est très émue, car elle rentre dans une grande famille de notables. La mère la reçoit avec le sourire, dans son jardin d'hiver. Elle est petite, maigre et habillée de noir avec des cheveux blancs.
« Je suis très heureuse de vous connaître, ma fille. J'ai entendu parler de beaucoup de bien de vous. Quoique ce mariage est une mésalliance à cause de différences de fortune, je passe outre parce que vous êtes une fille pure et sérieuse. »
Eugénie revient de cet entretien effondré. Elle voudra rompre tout de suite. Je ne peux pas me marier avec lui. Il verra que je ne suis pas pure. A convoqué Hector, elle le reçoit dans son jardin.
Voilà, j'ai réfléchi, je ne peux pas me marier avec vous.
Il est surpris, il pense que c'est encore un de ses caprices.
Pourquoi? C'est impossible? Vous ne m'aimez plus?
Je ne peux pas me marier avec vous.
Dites-moi pourquoi.
Je n'en suis pas digne.
Ah, je comprends. C'est ma mère qui vous a fait peur avec toutes ces histoires d'un autre âge.
Il l'embrasse sur le front.
Soyez tranquille. Vous êtes aussi pur que l'agneau qui vient de naître. Allez, je me sauve. J'ai un client. De toute façon, vous ne pouvez plus reculer. Tout est prévu.
Il l'embrasse et part en courant.
Les jours passent d'une vitesse incroyable. Elle est prise malgré elle par les préparatifs du mariage. Et malgré tout, elle a peur. Elle a bien essayé de reparler à Hector plus d'une fois. Elle ne veut rien entendre. Enfin, le jour du mariage a lieu. Elle vit toutes ces cérémonies comme un pantin que l'on mène d'un point à l'autre. Mariage à la mairie, à l'église.
Mes chères sœurs, mes chers frères, nous voici réunis ici sous le regard de Dieu afin d'unir dans le Saint-Sacrement du mariage cet homme et cette femme.
Le repas et le bal.
S'il vous plaît, un café bien chaud.
Avec du sucre?
Oui, merci.
Bonne nuit, ma chérie.
Enfin, les invités partent. La mère d'Hector leur laisse la maison. Eugénie est blanche comme la mort et tremble comme une feuille. Hector la conduit dans sa chambre. Va dans la sienne se préparer pour la nuit de noces. Une fois que son mari l'est quitté, que la porte s'est refermée derrière lui et qu'elle s'est trouvée seule, elle éclate en sanglots, puis panique.
Mon Dieu, il va revenir me rejoindre.
Un orage éclate. Elle quitte son voile, sort de la pièce sans faire de bruit. Descend les escaliers. Et sort de la maison. Personne ne l'a vu. Dehors, l'orage fait rage. Court en direction de la campagne. Rage est tellement fort qu'elle n'y voit rien. Trempée, ses chaussures en satin blanc n'ont plus de forme. Morte dans un champ, les vêtements ruisselants de pluie. Présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Plus fort que l'orage.
C'était la deuxième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistre.